Je suis en compagnie de Sanjay Subramaniam. Nous parlons de votre dernier livre, L'Inde sous les yeux de l'Europe, mots, peuple, empire, édité aux éditions Alma. Ma première question serait très générique. Quelle est l'origine intellectuelle de votre livre ?
Alors, donc, comme j'ai essayé d'expliquer au tout début du livre, en fait, ce livre remonte à assez longtemps. Peut-être, j'ai commencé à penser à ce genre de questions il y a 20 ans, ou même un peu plus. Ça a à voir avec des interrogations que j'avais quand j'étais à Berlin, comme il s'avère, en 2000-2001, dans un institut d'études avancées, entouré par d'autres spécialistes de l'histoire de l'Inde, etc. Et là, on a beaucoup discuté, justement, comme point de départ, comment les Allemands voyaient l'Inde. Et puis, c'était aussi par rapport à la politique contemporaine, mais du coup, je me suis dit que c'était aussi intéressant de creuser dans le passé pour arriver à comprendre où on est arrivé à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire les origines assez lointaines. Et comme moi je suis au départ spécialiste de l'époque moderne, 16e, 17e surtout, donc pour moi c'était une question relativement facile de repérer les archives. Et puis donc j'ai construit ce projet parfois hésitant un peu parce que je ne trouvais pas la bonne voie ou la bonne solution pour résoudre un problème en particulier. Mais donc j'ai accumulé ces matériaux pendant à peu près 15 ans et puis il y avait la mise à écriture.
Votre livre, il parle d'où ? À partir d'où il parle ? Quel est votre point de vue de départ pour le construire, pour l'écrire ?
Alors, en fait, moi, j'aime bien penser dans le cadre des débats existants. Hein. Donc, il y a un débat assez important qui a été lancé à la fin des années 70. Il n'avait pas tellement à voir directement avec l'Inde, mais avec, disons, l'Orient en général. Et ça, c'est le livre d'Edward Said, L'Orientalisme, publié en anglais en 78. Et comme vous le savez, il y a eu une espèce de polémique assez importante, plutôt dans le monde anglophone, mais aussi dans le monde francophone, autour de ce livre, parce que là, Saïd a voulu expliquer que l'orientalisme, c'était une espèce de complot. C'est-à-dire, c'était les Occidentaux qui ont décidé de représenter d'une façon extrêmement distordue l'Orient. Et c'était quelque chose qu'ils ont fait presque délibérément. Et du coup, donc, l'Orient, pour lui, a été victime de cette façon de représenter la vie orientale, la société orientale, et ainsi de suite. Et puis, donc, dans les années 80 et 90, il y a eu un débat avec prise de position. Et là, je suis arrivé à l'idée que, ni les gens qui étaient pour Saïd, ni les gens qui étaient contre lui avaient entièrement raison. Donc, pour moi, il fallait prendre en compte ce débat et essayer de le dépasser. Et en effet, ce livre, est, comme je le dis, c'est un livre post-saïdien. C'est-à-dire, ce n'est pas pour ignorer ce que Saïd a lancé en tant que débat, mais pour aller au-delà de ça.
Que signifie ces deux dates qui sont les limites chronologiques de votre livre, 1500, 1800, pourquoi ce choix ? Alors quand on lit votre livre, on comprend pourquoi 1500, si vous pouvez nous l'expliquer.
1500, c'est parce que c'est à peu près le moment de l'arrivée des Portugais en utilisant la route du Cap en Inde, donc 1498 techniquement pour Vasco da Gama. Mais donc, j'ai pris 1500 comme une espèce de... Comme c'est plus arrondi. Et 1800, c'est parce que c'est plus ou moins le moment quand la conquête britannique de l'Inde s'achève. Par exemple, si j'étais en train de parler d'autre chose, si c'était par exemple le monde arabe, 1800 aurait peut-être un peu moins de sens, sauf pour, par exemple, l'expédition d'Égypte. Mais en gros, par exemple, pour le Maghreb, 1830, c'est beaucoup plus important. Mais pour l'Inde, je dirais que la fin du 18e, c'est le moment quand il y a eu la conquête et plus il y a eu énormément de bouleversements autour de cette conquête. Et donc, à mon avis, les règles de jeu ont changé.
Alors, prenons le commencement. 1500, c'est une date qui marque une intensification dans la nature et l'ampleur des relations entre l'Europe et l'Inde. Je vais vous lire. Bien que les contacts politiques, militaires et diplomatiques entre les espaces appelés Europe et Inde remontent au moins au temps d'Alexandre le Grand, et au royaume indo-grec et qu'ils aient été maintenus à l'époque où l'Empire romain était à son zénith, il est indéniable que la date de 1500 marque une intensification dans la nature et l'ampleur de ces relations. Et vous nous apprenez qu'au XVIe siècle, il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'Européens, principalement portugais au début du XVIe siècle, qui gagnent l'océan Indien et qu'en fait, seul un petit nombre laisse une trace écrite.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est très difficile de chiffrer exactement parce qu'on n'a pas même pour les navires, on n'a pas de chiffres exacts et encore moins pour les gens. Mais on sait que globalement, on peut arriver à quelques idées d'ordre général sur les Européens qui étaient principalement, comme j'ai dit, les Portugais. Mais il en avait d'autres aussi, comme j'explique. Il y avait des Italiens, il y avait même des Allemands et quelques autres, une petite poignée de Français que j'ai traités, qui sont venus en Inde déjà dans les années 1520, qui ont eu, c'était une expédition un peu plus ou moins désastreuse des gens de Normandie. Mais en tout cas, il y a un mélange, mais dominé par les Portugais, et c'est là où j'ai commencé.
Alors prenons un cas, le cas de João de Barros au XVIe siècle, qui est un chroniqueur portugais. Qu'est-ce qui le distingue des autres Portugais présents au même moment en Inde ?
Ah, tout d'abord, il faut constater que João de Barros n'est jamais allé en Inde. En fait, c'est un intellectuel de bureau. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui est resté plus ou moins toute sa vie à Lisbonne. Il a peut-être fait un voyage en Afrique occidentale, on n'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, il n'est jamais allé en océan Indien. Mais ce qu'il a fait, c'est parce que c'était quelqu'un de très important. C'était ce qu'on appelait le feitor. C'était celui qui dirigeait le comptoir à Lisbonne. Pour le commerce des épices et d'autres produits venus de l'Inde. Alors donc, il avait un réseau très important d'informateurs. Et c'est à partir de ces informateurs, qui étaient parfois des hommes portugais, mais parfois même des esclaves qu'il a fait acheter exprès, parce qu'il avait besoin d'un certain type de savoir, qui détenait par exemple un esclave qui était musulman et donc persanophone ou arabophone. Donc c'est on sait que c'est une pratique chez les intellectuels parfois d'employer des autres. C'est pas une pratique très désirable, mais c'est comme ça que lui il fonctionnait, c'est-à-dire qu'il a toute une usine, disons, pour amener cette information, et c'est à partir de ça qu'il va faire son ouvrage de synthèse qui est à peu près la chronique officielle des Portugais d'Asie, qu'il a publié. Il n'a pas terminé, il est mort avant que ça soit terminé, mais il a publié au moins une grande partie de cet ouvrage au milieu du XVIe siècle.
Et alors, il y a obligatoirement ce questionnement de quel est cet autre ? Quels sont ces Indiens ? Quel est ce pays ? Quelles sont ces normes sociales ? Et pour cela, il faut inventer des concepts. Alors, il y a un premier exemple qui serait le problème de la compréhension du phénomène religieux. Et là, il y aurait l'utilisation et l'invention du concept de gentil, je ne sais pas si je prononce bien, gentios. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
En fait, ça, ce n'est pas un concept tout à fait inventé à l'époque, parce que ça remonte au début du christianisme ou même du judaïsme, c'est-à-dire, comme chez les juifs, on dit les goïs, les goïms, ce sont les non-croyants. Et la même chose pour les chrétiens. Donc, pour les chrétiens, par exemple, les grecs sont des gentils. Ce sont des gens qui n'ont pas reçu la vraie religion. Et en fait, les Portugais ont appliqué ce mot gentio, qui a des origines latines, et ils vont donc dire que en Inde, on a bien sûr des musulmans, même beaucoup de musulmans. Puis on a quelques juifs, et puis on a un certain nombre d'autres gens appartenant à d'autres religions. Mais puis ces gens qui sont des gens inclassables, on les appelle donc des gentils ou des gentios qui n'appartiennent pas à la religion musulmane, à la religion juive, ni à la religion chrétienne.
Et alors, comment les Européens vont entrer en connaissance du phénomène religieux indien ?
Il y a plusieurs voies. Une voie qui, bien sûr, est très importante, c'est par le biais des missionnaires. C'est-à-dire, il y a des missionnaires qui sont arrivés avec les Portugais, pas depuis le départ, mais quand même. Et puis, ce phénomène de missionnaires se complexifie parce qu'à partir des années 1540, il y a des nouveaux groupes de missionnaires, comme les jésuites, par exemple, qui est un ordre de missionnaires qui a été fondé plus ou moins dans les années 1530-40. Et donc ces gens-là arrivent et ils ont donc un trait à comprendre ce qui sont les croyances des autres, justement parce qu'ils visent la conversion. Donc ça, c'est un biais. Mais il y a aussi d'autres qui ont un regard, disons, ethnographique, qu'ils soient des marchands, qu'ils soient des employés de la couronne. Et eux aussi, ils ont donc accumulé ces données. Et donc, en fait, c'est à partir de ces trois ou quatre types d'acteurs que les réflexions portant sur la religion des Indiens vont se construire.
Et puis, il y a un deuxième problème pour la compréhension de l'organisation sociale. C'est celui des castes. Voilà, il y a aussi les castes, qui est quelque chose qui intrigue beaucoup. Et... on peut imaginer que ce concept-là soit quasi une création européenne.
En partie, c'est certainement ça. D'ailleurs, le mot est un mot portugais casta au départ. C'est un mot qu'on utilise pour classer, même pour classer, par exemple, je ne sais pas, les chiens, les chevaux, même les cépages de vin et ainsi de suite. Mais dans ce cas particulier, ils ont utilisé ça pour traduire quelque chose qui est une idée qu'on trouve en Inde, c'est-à-dire que bien sûr que la société en Inde est divisée en différentes catégories, comme toute société d'ailleurs. On connaît l'idée des trois ordres qui existent en Europe médiévale. George Duby et autres ont beaucoup écrit sur ça. Et dans le cas de l'Inde, donc, il y a ces catégories. Et donc, on traduit ces catégories. Le mot normal en Inde, c'est jati. Donc, on le traduit par caste ou caste. Mais puis, ce qui devient intéressant, et c'est là où je pense qu'il y a un tournant, c'est dans la deuxième moitié du XVIe siècle, quand on cesse de traiter ça juste comme une catégorie, mais on pense à un système, donc un système de caste, et donc qui fait un ensemble, qui a donc un système a forcément des règles. Et donc là, et en particulier, j'ai insisté sur les écrits d'un certain nombre de missionnaires, notamment un certain Agostinho de Azevedo, mais aussi d'autres. Et petit à petit, on a mis en place l'idée qu'il y avait quelque chose qui s'appelait un tout, un système. Et c'est à partir de ça que cette notion va s'ancrer de plus en plus fortement dans l'imaginaire européen portant sur l'Inde. Et donc, c'est transmis par la suite aux Anglais, aux Néerlandais, et etc., qui passent en quelque sorte par les Portugais.
Donc, petit à petit, on comprend qu'il y a donc un regard européen. Et votre grande question, qui pourrait être celle-ci, y a-t-il une seule lecture, une seule compréhension européenne de l'Inde à cette époque-là, et se confronte à une nouveauté qu'on ne pouvait pas forcément sentir, enfin moi en tout cas que j'ai appris par votre livre. Je vais vous citer longuement et après je vous demanderai d'expliquer. Selon un analyste récent de la littérature de voyage s'inscrivant dans la tradition d'une histoire européenne des idées, et dont la familiarité avec les textes musulmans ne repose ironiquement que sur des traductions datées produites par des orientalistes occidentaux, il est devenu évident qu'il y avait de la même manière des biais idéologiques dans l'opinion des musulmans orientaux sur les autres peuples de l'Orient, ce qui sous-tend corollairement qu'on a fait un vacarme déplacé à propos des opinions européennes sur l'Inde.
Oui, là, je me réfère à... un savant catalan qui a écrit sur l'Inde et donc qui en quelque sorte a envie de dire que rien de spécial sur ces Européens, même les musulmans arrivés en Inde de l'Iran ou de l'Asie centrale, pensaient à peu près de la même façon. Et je pense qu'il y a là quelque chose, à la fois c'est une distorsion, parce que les musulmans arrivés en Inde n'avaient pas la même vision que les Européens, et deuxièmement, c'est aussi une façon de en quelque sorte, dire que les Européens n'était en fin de compte pas si méchant que ça. Alors que je trouve que, en fait, il ne faut pas mélanger ces deux visions. Les musulmans ont abordé ça par un autre biais qui a à voir aussi par le fait qu'ils sont venus pour construire des États en tant que, et pour bâtir des empires à l'époque, etc. Et ils se sont installés en Inde durablement, tandis que les Européens, souvent, sont des gens de passage. Et en fait, leurs écrits sont plutôt destinés à un auditoire européen. Donc ça aussi, ça change les choses. Donc, à mon avis, c'est un raccourci trop radical de mélanger ces deux sortes de savoirs.
Parce que les Européens, en Inde, ne rencontraient pas seulement la population locale, ils rencontraient également l'Orient qui était présente et qui, du coup, agissait différemment.
Oui, bien sûr, ils ont eu toutes sortes de rencontres. D'ailleurs, c'est une des choses que j'explique dans le chapitre sur Jean de Barge, parce que Jean de Barge a aussi fonctionné par le biais d'un savoir textuel et philologique. Et ça, ça passait par le persan, parce qu'il y a eu pas mal d'écrits en persan les Portugais ont compris d'une façon ou d'une autre, parfois directement, parfois en passant par la voie orale. Ça aussi, il y a plusieurs couches dans l'affaire. C'est aussi ça que j'ai essayé de restituer, c'est-à-dire la complexité de cette interaction. C'est souvent une interaction triangulaire, voire quadrangulaire. Il n'y a pas que les Indiens et les Européens. Il y a aussi d'autres, il y a plusieurs sortes d'Européens, et ainsi de suite.
Et puis on en arrive à cette question centrale, celle de la rencontre. Comment s'effectue une rencontre? Et là, vous avez versé toute la fin de votre livre le regard. C'est le regard des Indiens sur les Européens et aussi leur méconnaissance de l'Europe, leur méconnaissance de ce que peut être un Européen. Je vous cite. Toute rencontre requiert évidemment au moins deux parties. Cependant, rien ne garantit que les deux soient présentes à part égale lors de la jonction, ni que leur voix soit de manière égale, entendue ou recouvrée par les investigateurs ultérieurs. C'est une question centrale quand on traite de la présence européenne dans le monde extra-européen au début de la période moderne, que cela concerne l'Australie, les Amériques ou l'Asie. À cet égard, il demeure essentiel pour nous de ne pas prendre l'habitude d'imaginer que les rencontres qui eurent lieu à l'échelle mondiale, au début de la période moderne, entre Européens et non-Européens, se faisaient entre, d'un côté, un peuple doté d'une histoire, et de l'autre, des peuples sans conscience historique.
Voilà, ça c'est aussi par rapport à un certain type de construction. Il y a un célèbre livre d'un anthropologue américain, Eric Wolf, L'Europe et les peuples sans histoire, dans lequel il imagine que donc, les Européens, qui sont des espèces d'hégéliens avant la lettre, ont toujours une conscience historique, que ça soit bonne ou mauvaise, tandis que les non-Européens n'ont pas d'histoire et donc ils sont innocents, soit ils n'ont pas d'histoire, donc ils sont stupides, mais en tout cas, on fait cette espèce de contraste très, très marqué, tandis que je trouve que c'est tout à fait injuste et aussi incorrect par rapport à un endroit comme l'Inde ou la Chine ou le monde musulman en général, etc. Comment on est arrivé à penser qu'il y a une littérature historique en arabe qui date déjà du 7e siècle. Alors, imaginez que ces gens-là sont sans histoire, sans conscience historique, ça, c'est un peu absurde.
Et alors, vous en venez à la manière dont l'Inde perçoit l'Europe. Vous écrivez, nous ne savons pas vraiment quand le tout premier Indien s'est rendu en Europe, mais il est attesté qu'en 1499, quelques Indiens au moins étaient à bord des navires qui ramenaient Vasco de Gama au Portugal. Un peu plus loin, vous écrivez que le problème est qu'aucun de ces visiteurs indiens n'a laissé de récits concernant son expérience dans l'Europe des premières décennies du XVIe siècle.
Voilà, donc on a ces quelques cas. Le cas le plus connu, c'est un dénommé Joseph de Cranganor. Mais malheureusement, en fait, la seule chose qu'on a de lui, c'est un texte pas écrit directement, mais plus ou moins indirectement, où il raconte l'Inde aux Européens. Donc, c'est pas qu'il raconte l'Europe aux Indiens. Il est pris comme informateur par les Européens. Et c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que c'est que, je dirais, dans la deuxième moitié du XVIe siècle qu'on commence à voir les textes où on traite les Européens, notamment en arabe, en Inde du Sud, mais malheureusement, peu de choses sur la géographie de l'Europe même, la constitution des royaumes. Il y a quelques exceptions que j'ai remarquées, comme le texte de le Rosetu Tahirin de Tahir Mohamed Sabzawari, qui était un courtisan à la cour moghole. Mais ce sont des exceptions. Et en gros, je dirais que l'Europe reste dans une espèce de flou artistique pour les Indiens jusque dans le XVIIIe siècle.
Un flou artistique qui va jusqu'à, écrivez-vous, que nous pouvons donc légitimement parler d'un premier moment d'observation durant lequel il existe pour les Indiens des Européens sans l'Europe.
Voilà, donc on a une idée assez vague, qui sont des gens blancs qui viennent d'ailleurs, mais où exactement, on ne le sait pas. Mais comme j'ai dit, c'est certainement au XVIIIe siècle, on commence à avoir une idée assez précise. Déjà peut-être à la fin du XVIIe, il y a un moment intéressant quand il y a un ambassadeur anglais qui arrive en Inde pour négocier avec l'Empire moghol. Et là, on commence à poser des questions très difficiles auxquelles il ne peut pas répondre. Par exemple, on lui demande pourquoi Guillaume III est à la fois un Irlandais et le roi d'Angleterre. Et il ne sait pas quoi dire. Et on pose des questions, par exemple, les Anglais, on passe beaucoup de temps à raconter que l'Angleterre est beaucoup plus importante que la France, tandis que les gens à la cour moghole ont entendu autre chose. Donc on commence à démontrer un certain niveau de connaissance de la géopolitique européenne, et ce monsieur-là, qui s'appelle William Norris, un ambassadeur anglais, est assez gêné quand il trouve qu'il ne s'agit pas de gens ignares auxquels on peut raconter n'importe quoi.
Parce que, lisant tout ce chapitre-là, je me suis posé cette question de quel type de rencontre peut-il être produit dans ces conditions-là, c'est-à-dire dans ces conditions de mutuelle ignorance, l'ignorance des Européens envers les Indiens au XVIe siècle, et puis jusqu'au milieu du XVIIe, mais ignorance mutuelle des Indiens envers les Européens, qui se ferait ces Européens en bloc, qui se feraient appeler les Francs, et où il y a tout un tas de légendes qui circuleraient à leur propos.
Oui, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes non plus. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il y a des légendes, bien sûr, il y a des restes. Le mot « franc » vient d'ailleurs des croisades. Mais en fait, au niveau de fonctionnement pragmatique, ça n'empêche pas de faire la guerre, ça n'empêche pas de faire le commerce, ça n'empêche pas de fonctionner au quotidien. Donc, ce n'est pas comme si ils ont été pris comme si, pour des extraterrestres. C'est des gens, et on a compris que c'était des gens, parfois avec des habitudes un peu néfastes, mais pour le reste. Donc, je pense qu'entre cette idée de merveille et les Européens qui sont des gens bizarres et avec une société très étrange, et aussi l'idée qu'on peut avoir des rapports quotidiens avec eux, on arrive à construire quelque chose, je dirais, en improvisant.
Oui, parce que c'est peut-être ce qu'on apprend de plus fondamental, en fait, dans votre livre. Enfin, moi, en tout cas, c'est ainsi que je l'ai perçu, c'est que je l'ai reçu. C'est que pendant un siècle et demi, deux siècles, des populations peuvent agir les unes envers les autres, finalement, en méconnaissant leurs fondamentaux.
Oui, je suis pas si porté sur cette idée de méconnaissance. Je pense que... Bon, d'ailleurs, les connaissances sont toujours partielles. Il n'y a rien qui s'appelle une connaissance complète ou totale. Donc, même à l'intérieur d'une société, est-ce que j'habite dans un bâtiment à Paris? Est-ce que je connais mon voisin parfaitement? Non, bien sûr que non. Donc, toute connaissance étant partielle, ça, et c'est peut-être encore plus fragmentaire et plus partiel qu'on peut imaginer dans d'autres circonstances. Mais je veux dire que cela ne va pas empêcher forcément toute une série d'interactions, de fonctionnements et ainsi de suite. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut, il faut comprendre. C'est-à-dire, j'ai expliqué ça dans un autre livre, L'éléphant, le canon, le pinceau. C'est-à-dire, les sociétés, il n'y a pas d'interaction entre sociétés. Il y a toujours des interactions entre agents et entre fragments de sociétés. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pas l'Europe qui a rencontré l'Amérique, c'est des Européens qui ont rencontré des éléments des sociétés américaines. Et c'est un peu comme ça en Inde aussi.
Qu'est-ce qui vous surprend dans vos recherches? J'imagine au fur et à mesure que vous travaillez cette masse énorme d'archives en de très nombreuses langues, il y a forcément des découvertes que vous n'avez pas prévues au départ. J'imagine vous partez sur des postulats et puis soudain ils peuvent être soit corroborés, soit complètement mis à mal.
Oui, ça dépend parce que ces chapitres sont construits de façon différente. Par exemple, il y a des chapitres où j'ai essentiellement travaillé sur des textes publiés, des lettres publiées, et parfois sur des personnages qui sont relativement connus, comme par exemple, quand je parle de Charles de Bussy, le seigneur de guerre français qui était en Inde au XVIIIe, ça c'est un personnage moyennement connu quand même. Mais même si je trouvais parfois des attitudes un peu surprenantes, c'est-à-dire dans la violence et dans le mépris qu'il avait pour l'Inde, tout en faisant fortune là-bas. Parfois on est un peu sidéré quand on lit ces lettres et le genre de discours qu'il y a dedans. L'autre chapitre que j'ai abordé d'une façon totalement différente, c'était un chapitre qui porte sur un Écossais qui s'appelle James Fraser, qui était en Inde pendant la première moitié du 18e. Et là, comme j'ai fait un travail d'archives, j'ai trouvé des choses que presque personne n'avait vu parmi les autres chercheurs. Fraser était légèrement connu, mais en fait, finalement, j'ai compris un certain nombre de choses sur le contexte de cet Écossais venu de plus ou moins d'Inverness et qui a passé énormément de temps en Inde. Et finalement, j'ai compris qu'il était devenu apprenti dans les loges soufis dans la ville portuaire de Surat. Il a compris un certain nombre de choses. Et surtout, c'est en regardant sa collection de livres que j'ai compris énormément de choses sur ce monsieur et comment il fonctionnait. Et ça, c'était pour moi vraiment une grande découverte. Et j'espère que ce n'était pas seulement pour moi, parce que je crois que pour la plupart des gens qui ont étudié la compagnie anglaise au XVIIIe siècle, jamais on n'avait compris les choses exactement de cette façon.
Excusez ma question finale, mais pourquoi vous intéressez-vous à la vision européenne de l'Inde? Qu'est-ce qu'il se joue pour vous en tant qu'historien, en tant qu'homme, en tant que personne étant né quelque part?
Non, en fait, il y a plusieurs raisons pour s'intéresser à ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule chose que j'ai fait dans la vie. Ce n'est ni mon premier ni mon dernier livre, j'espère. Pour moi, l'essentiel de la question portant sur les Européens, il y a, je dirais, au moins deux aspects. Un aspect, c'est ce qui reste de tout cela, même aujourd'hui. Donc, parce que je trouve qu'un certain nombre de ces images, de ces stéréotypes, de ces topoi de l'époque, en fait, restent ancrés dans l'imaginaire des Européens et plus grandement des Occidentaux, même des Américains, je dirais, portant sur l'Inde. Donc, il y a quelque chose qui a été fait à cette époque-là, pendant ces trois siècles, qui a laissé des traces extrêmement durables. Et ça, pour moi, c'est aussi un aspect intéressant. Mais il y a aussi quelque chose d'autre que je trouve très important, c'est-à-dire que je pense qu'en fin de compte, tout cela a aussi eu un effet sur la façon dont les Indiens se voient eux-mêmes. Par exemple, si on prend l'idée de la religion, L'idée que font beaucoup d'Indiens aujourd'hui sur ce qu'est leur religion, en fait, c'est basé sur les écrits des Européens. Donc, même pour la conscience de soi en Inde, finalement, ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui est, pour ainsi dire, autonome. C'est quelque chose qui a été créé dans cette interaction avec ces Européens à l'époque. Et ça, je veux dire, c'est une transformation donc à la fois des choses de l'extérieur et de l'intérieur. Et donc, c'est exactement pour ça que je trouve que si quelqu'un, un homme politique un peu intelligent en Inde peut lire ce livre ou a envie de lire ce livre, il peut aussi comprendre qu'un certain nombre de questions qui sont en débat, même aujourd'hui en Inde, dans le champ politique, en fait, ils sont des reflets parfois assez lointains, bizarres, etc., mais de ces débats venant de l'époque moderne.
Et est-ce que vos travaux, vos grands travaux historiques, très importants, ont des conséquences pratiques et intellectuelles en Inde ?
Je pense que oui, mais en même temps, c'est pas très direct. C'est, comment dirais-je, par exemple, le grand historien français que je connais, Denis Crouzet, qui a écrit un livre sur le Saint-Barthélemy. Alors, ça s'est passé en 1572. Est-ce que c'est quelque chose qui a des échos sur en France aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on ne peut pas penser le rapport entre groupes religieux, entre majorité, minorité, etc., sans avoir toujours en tête Saint-Barthélemy, puis l'édit de Nantes, puis l'édit de Fontainebleau. Tout cela, c'est quand même quelque chose qui reste dans le fond, parfois dans le sous-conscient, parfois dans le conscient. Et de la même façon, je pense que ce que je raconte dans ce livre, ça a des conséquences pour l'actualité en Inde. Mais je ne dirais pas que c'est très évident de faire le lien entre ce passé et le présent. Et d'ailleurs, moi, historien, je ne peux pas contrôler l'usage que font les autres de mes travaux. Ça fait partie du jeu. Je peux écrire ce que j'écris, mais le lecteur va lire ce qu'il a envie de lire.
Merci. Merci infiniment, Sanjay Subramaniam. Merci.